Bonjour.
Bonjour.
Je vais commencer par aussi dire quelque chose sur ce beau chant qu'on a chanté. C'est aussi un chant que j'aime énormément. Et puis en fait, pour l'anecdote, le compositeur de ce chant, il l'a écrit au moment où sa femme est décédée. Et puis je trouve que ça prend aussi toute une autre dimension de pouvoir dire « Pour t'être utile, je dois accepter tout ce que tu as prévu » quand on parle du décès d'un être cher. Et puis c'est vrai que quand on chante ce chant, ben, j'aime le chanter avec cette pensée que ben, peut-être que dans ma vie, je vais avoir des choses très difficiles et puis que c'est toutes des choses que Dieu tient quand même dans sa main. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous ce matin. Je m'appelle Coralie Robert-Nicou. C'est un nom bien de chez vous, Robert-Nicou, hein? C'est le nom de mon mari. Pour ceux qui les connaissaient, il est le petit-fils de Willy et puis Pierrette Robert. Et puis le fils de Jean-Paul Robert. Et puis alors c'est rigolo parce que mon mari c'est un Robert, mais il a jamais vécu ici au pont. Et puis moi je suis pas une Robert d'origine. Et puis moi j'ai habité au pont, peut-être que ceux qui ont le plus de cheveux blancs s'en rappellent. Je suis la fille de Jacques et Claude-Evelyne Donzé, qui étaient là dans les années 90. Peut-être que je vous rappelle un petit peu ma maman parce qu'on se ressemble. Et puis elle avait le même âge, à peu près le même âge que moi maintenant quand ils étaient ici au pont. Donc voilà, je suis très contente d'être parmi vous. Je suis contente que Janda m'ait invitée. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, mais pas assez longtemps pour que je t'ai connue avec des cheveux, je crois. Mais on a habité longtemps ensemble, à côté, l'un en dessous de l'autre, à Neuchâtel. Et puis au niveau de mon parcours professionnel, j'ai fait des études en lettres à Neuchâtel et puis en travail social à Genève. Et puis ensuite, j'ai travaillé au poste de l'Armée du Salut à Payerne. Et puis depuis le mois d'août, je suis coordinatrice pour la justice sociale et puis la lutte contre la traite des êtres humains à Berne. Et puis, c'est à ce titre-là que j'ai été invitée pour vous apporter le message ce matin. Je vais commencer par vous donner un petit peu des informations générales sur la traite des êtres humains. Puis ce sera en quelque sorte l'introduction de mon message. Puis ensuite, je vous partagerai mon message. Et puis ensuite, je vous propose qu'on ait ensemble un moment de prière pour ce sujet qui est important, mais difficile aussi. Alors, c'est quoi la traite des êtres humains? C'est de l'esclavage. C'est exploiter ou bien participer à l'exploitation de personnes. Et puis les raisons les plus courantes de cet esclavage moderne, c'est les mariages forcés, l'exploitation sexuelle, l'exploitation dans le milieu du travail, sur les chantiers par exemple, ou bien encore le trafic d'organes, la mendicité forcée. Puis je me suis dit que pour commencer, je voulais vous donner un petit peu des petits chiffres pour mettre dans le contexte. Mais je n'ai pas trouvé de petits chiffres, j'ai trouvé que des immenses chiffres. En septembre 2022, donc à la fin de l'année passée, c'est très récent, il y a un nouveau rapport de l'Organisation mondiale du travail qui est sorti et puis qui explique que si on prend un jour donné en 2021, on estime qu'il y a 50 millions de personnes qui sont victimes de traite humaine dans le monde. Alors, je ne sais pas si 50 millions, ça vous parle beaucoup, mais ça équivaut à peu près à une personne sur 150 dans le monde. Et puis ce genre de rapport, c'est un rapport qui sort à peu près tous les 5-6 ans. Et puis 50 millions, c'est 10 millions de plus que ce qui était estimé dans le dernier rapport qui datait de 2016. Et puis parmi ces 50 millions, il y a 28 millions de personnes qui sont dans du travail forcé et puis 22 millions qui étaient dans un mariage forcé. Il y a certaines sources qui disent que le trafic d'êtres humains, ça rapporte plus d'argent que le trafic d'armes ou bien le trafic de drogue. Et puis si on est un petit peu pragmatique, ça se comprend facilement parce que la drogue, elle est vendue, elle est utilisée et puis elle disparaît. Un être humain, il peut être vendu, revendu, encore exploité jusqu'à sa mort. Les personnes qui sont le plus susceptibles d'être soumises à l'esclavage moderne, c'est les femmes, les filles et puis les personnes migrantes. Et puis il y a certaines sources qui parlent de 80% des esclaves qui seraient des femmes et des enfants. En Suisse, en 2020, il y a eu 174 personnes qui ont été identifiées comme victimes de traite d'êtres humains. Alors on peut dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais la vérité, c'est qu'il y en a beaucoup plus parce que les lois en Suisse, elles ne sont pas du tout faites pour venir en aide aux victimes de traite. Parce que pour pouvoir rester en Suisse, il faut s'annoncer et être reconnu comme victime de traite. Donc ça ralentit beaucoup de personnes de s'annoncer parce qu'il y a bien sûr la peur des exploitants, mais il y a aussi la peur d'être ensuite expulsé dans un autre pays. Donc c'est vraiment tous ces chiffres. C'est vraiment seulement la partie visible de l'iceberg. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'agenda 2030. C'est un agenda qui a été adopté par l'ONU et puis qui définit des cibles à atteindre pour le monde d'ici 2030. Et puis dans ces objectifs, il y a la fin de l'esclavage des enfants d'ici à 2025. Et puis la fin de l'esclavage de toute personne d'ici à 2030. Alors autant vous dire qu'avec 10 millions de plus en 5 ans, on est loin de réussir à atteindre ces objectifs. Et puis on est obligé de constater que la bonne volonté, ça ne suffira pas. La lutte contre la traite des êtres humains, ça fait partie de l'histoire de l'Armée du Salut depuis les débuts. Alors ça n'a peut-être pas toujours porté ce nom-là, mais le principe de lutter pour la reconnaissance de la dignité et puis de la liberté de choix de chaque vie, ça a toujours été présent. Peut-être que vous connaissez, si vous avez lu en tout cas le livre « Soupe, savon, salut », je crois que c'est dedans, l'histoire des allumettes. À l'époque de William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, il y avait des fabriques d'allumettes dans lesquelles les conditions, elles étaient terribles, où les gens travaillaient beaucoup, ils travaillaient avec des produits qui étaient toxiques, les conditions, elles étaient déplorables. Et puis l'Armée du Salut a créé sa propre fabrique d'allumettes dans lesquelles les conditions étaient bonnes et puis les produits n'étaient pas toxiques. Et puis ils ont permis de faire changer les normes. Et une fois que toutes les autres fabriques s'étaient mises aux nouvelles normes, l'Armée du Salut a remis sa fabrique et puis elle a concentré ses ressources sur d'autres projets. En Angleterre, l'Armée du Salut a participé à augmenter l'âge de la majorité sexuelle en la faisant passer de 13 ans à 16 ans. Et puis en Suisse, par exemple, l'Armée du Salut, elle est active aussi dans plusieurs endroits auprès des prostituées. Je me rappelle en 2015, la visite du général Cox à Bienne. Et puis il avait dit une phrase qui m'a marquée. Il avait dit: si notre objectif est uniquement d'être une communauté évangélique, il ne faut pas se leurrer. Il y en a des meilleurs. En tout cas, il y en a beaucoup. Mais il n'y a qu'une Armée du Salut. Et si nous remplissons notre mission, elle est irremplaçable. Alors, c'est quoi notre mission? La mission de l'Armée du Salut consiste à annoncer l'évangile de Jésus-Christ et à soulager en son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines. Et je crois qu'en tant que disciples de Jésus, Dieu nous appelle à nous élever contre l'injustice et puis à œuvrer pour la justice en faveur de ceux qui subissent l'oppression. Et je crois que Dieu entend les prières et les larmes des personnes qui sont oppressées et exploitées. Et puis si Dieu se soucie de ces personnes, je crois que nous aussi, on doit s'en soucier. Dieu se soucie aussi particulièrement des personnes qui sont réduites à l'esclavage parce que son propre peuple a été réduit à l'esclavage en Égypte. Et puis Dieu dit dans Exode 3, le verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Et puis avec vous, j'aimerais regarder un peu, d'un peu plus près comment Dieu répond à la souffrance de son peuple. Alors il fait ce que j'appelle la technique de Dieu. Il prend quelqu'un qui n'est absolument pas qualifié pour aller se mesurer au dirigeant le plus puissant du monde. Moïse, il a toujours eu dans son cœur le désir de libérer son peuple. Je vais vous lire dans Exode 2, les versets 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Moïse, il a dans son cœur ce désir de libérer ses semblables et ça, malgré sa condition privilégiée. Il avait été recueilli par la fille du Pharaon, il avait échappé à la mort des nouveau-nés. On peut imaginer qu'il avait grandi dans un environnement qui était quand même relativement confortable. Et puis je pense qu'il savait qu'il avait beaucoup à perdre en tuant cet Égyptien. C'est écrit qu'il a pris le temps de regarder à gauche, à droite. Donc c'était quand même un acte qui était un peu réfléchi. Donc lui, il n'a pas hésité à tuer un Égyptien pour tenter de venir en aide aux siens. Alors, on ne va pas chercher à défendre Moïse pour le meurtre de l'Égyptien. Son intention, elle était peut-être bonne, mais ses méthodes, elles étaient mauvaises. Donc le pharaon apprend cela, il veut faire mourir Moïse. Alors Moïse s'enfuit, il arrive dans le pays de Madian. Et puis là, il montre encore une fois qu'il a ce cœur de libérateur en venant en aide à un groupe de jeunes filles qui se faisaient chasser par des bergers. Puis le père de ces jeunes filles donne une de ses filles en mariage à Moïse et puis Moïse reste pendant plusieurs années dans le pays de Madian. Mais un beau jour, on est au début d'Exode 3, Moïse aperçoit un buisson en feu et puis Dieu lui dit d'aller libérer son peuple. Alors Moïse a un cœur de libérateur, mais là c'est quand même un petit peu trop pour lui. Donc il explique à Dieu pourquoi il n'est pas assez qualifié pour faire sortir les Hébreux d'Égypte. Alors d'abord il dit que les Israélites ne le croiront pas. Moi j'arrive assez bien à comprendre cette peur-là, parce que en gros ce qu'il doit faire c'est aller vers les Israélites et puis leur dire « Bonjour, je viens vous libérer parce que j'ai parlé avec un arbre ». Donc voilà, je comprends assez que ça lui mette un peu le doute. Alors pour répondre à cette crainte-là, Dieu lui donne un signe. Mais alors là, moi c'est un passage de la Bible, ça m'interpelle quand même beaucoup parce que moi si je demande un signe à Dieu, surtout pour un truc quand même assez gros comme ça, je demanderais un truc quand même assez flagrant, peut-être des lettres de feu dans le ciel, avec des anges qui viennent jouer de la trompette ou bien... quelque chose, après, je suis sûre. Mais le signe que Dieu donne, c'est un signe qui arrive après. Dans le verset 12, Dieu dit « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Donc en gros, ce qu'il lui dit, c'est « Va, fais ce que je te dis. » Et après, tu verras si c'est bien moi qui t'avais envoyé. Alors, Moïse est apparemment moins sceptique que moi parce qu'il répond bien. Ça lui suffit. Mais après, il a quand même encore des excuses. Il dit qu'il n'est pas très doué pour parler. Et puis, en fait, ce qu'il dit là, c'est « Dieu, tu ne m'as pas assez bien créé. » Puis là, Dieu lui rappelle que c'est lui qui a donné une bouche à l'homme et puis qu'il ne fait pas d'erreur. Et puis finalement, à court d'excuses, Moïse il demande encore à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Alors là, Dieu il se met en colère, et puis, mais il lui accorde quand même l'aide de son frère Aaron. Alors à ce moment-là, je ne sais pas si Moïse était convaincu ou s'il était à court d'excuses, mais il va en Égypte et puis il demande au Pharaon la libération du peuple hébreu. Et puis après quelques refus et les 10 plaies d'Égypte, le Pharaon accepte de laisser partir le peuple de Dieu. On a vu que Moïse, il avait un cœur de libérateur, mais ses premiers essais se sont soldés par des échecs. Parce qu'il y est allé tout seul, il a fait avec ses propres forces. Alors le message que je veux vous transmettre ce matin, c'est pas quand on fait avec ses propres forces, ça marche pas. Et puis quand on laisse faire Dieu, c'est très facile. Parce que le récit de Moïse montre pas du tout ça. Et puis la vie des chrétiens que je connais non plus. Le fait que ce soit Dieu qui envoie Moïse, ça n'a pas rendu les choses faciles. Il y a encore 10 chapitres, et puis ce n'est pas des chapitres tout tranquilles, entre le moment où Moïse et Aaron vont pour la première fois devant Pharaon pour lui demander la libération du peuple, et puis le moment où il les laisse partir. Puis après, quand il les laisse partir, c'est encore pas tout facile. Hein. Je crois qu'on est tous appelés à libérer les opprimés. Dans Luc 4, les versets 18 et 19, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alors bien sûr, cette prophétie, elle concernait Jésus et puis elle a été accomplie par lui. Et puis je me suis demandé si on pouvait quand même l'appliquer à nous. Et puis dans Jean, Jésus nous dit « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et puis il dit aussi « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. » Donc je crois qu'on peut aussi prendre ces paroles pour nous et qu'on est nous aussi appelés à libérer les opprimés. Moïse avait sur son cœur ce désir de libérer son peuple. Alors moi, je vous le demande, qu'est-ce qui brûle sur votre cœur? Il y a un chant que j'aime bien qui dit « Que mon cœur soit brisé par ceux qui brisent le cœur de Dieu. » Et puis je pense que la grande majorité des chrétiens et puis même la grande majorité des humains, dans l'absolu, n'est pas favorable à l'injustice. On n'est peut-être pas conscient qu'on participe à peu près tous à un système qui est injuste, ou alors peut-être que parfois on se voile la face. Mais si je vous demande si vous trouvez ça normal que des enfants de 4 ans travaillent 12 heures par jour pour gagner rien, qu'ils doivent dormir sur un carton, qu'ils sont vendus par leurs parents, j'imagine que vous allez tous me dire que c'est pas normal. Si je vous demande si vous trouvez normal qu'une jeune fille de 13, 14 ans soit enlevée à sa famille, parfois vendue par sa famille, qu'elle soit ensuite envoyée dans un autre pays, qu'elle soit violée, battue, forcée à se prostituer plusieurs fois par jour, j'imagine que là aussi vous allez me dire que c'est pas normal. Si on avait un bouton sur lequel il suffisait d'appuyer pour mettre fin à ces situations, et puis si je vous demandais si vous vouliez presser dessus, j'ai de la peine à imaginer que quelqu'un hésite. Et puis si c'est le cas, peut-être allez parler avec votre officier, je pense qu'il y a quelque chose un petit peu à réfléchir. Par contre, cette tâche de lutter contre l'injustice, elle est tellement grande qu'elle est décourageante. Et puis quand on parle de la traite humaine, ça concerne tellement de milieux. C'est tellement imbriqué dans notre société que c'est vrai que c'est compliqué. On ne sait pas par où commencer et puis on a l'impression que les petits efforts, ça n'a pas vraiment d'impact. Et puis peut-être qu'on se sent un peu comme Moïse et puis qu'on ne se sent pas qualifié pour répondre à l'appel de Dieu de libérer les opprimés. Alors laissez-moi vous dire que si vous croyez ça, vous avez raison. Dans Exode 3, le verset 11, Moïse demande à Dieu « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Mais je pense que la question à poser, c'est pas « Qui suis-je ?» mais c'est « Qui m'envoie ?» Et puis celui qui nous envoie, c'est Dieu. Moïse, il est un petit peu comme un diplomate auquel on conférerait l'immunité diplomatique. Il est sous la protection de celui qui l'envoie. Et celui qui l'envoie, c'est Dieu. Et Dieu est plus puissant que n'importe quelle puissance ici-bas. Et non seulement le pouvoir de Dieu, il est plus puissant et puis plus fort que n'importe quel pouvoir, mais il est aussi différent. C'est pas juste une version plus grande, plus puissante, ou bien qui fait plus peur que les autres pouvoirs en place, ceux qui sont portés par des arsenaux de guerre ou bien des armes nucléaires. Le pouvoir de Dieu, il agit différemment. Et puis c'est de ce pouvoir que nous avons besoin pour notre mission. Je pense qu'on pourrait avoir toutes les ressources financières nécessaires pour lutter contre la traite des êtres humains, contre la famine, contre l'injustice, ça ne suffirait pas pour les éradiquer. Parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc ce dont nous avons besoin, ce sont des ressources spirituelles. Paul le dit dans 2 Corinthiens 10, les versets 3 et 4, « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. » Et puis ces ressources spirituelles, tout le monde est capable de les réclamer. En tant que disciple de Jésus, on veut faire du bon travail, mais pas seulement. On veut faire du bon travail de la bonne manière, à la manière de Jésus. Et puis la manière de Jésus, c'est l'amour. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui s'est converti parce qu'on lui a tapé assez fort sur la tête avec sa Bible. Ça, ce n'est pas la façon de Jésus. La manière de Jésus pour transformer les cœurs, c'est l'amour. Dans Exode 3, quand Moïse va vers le buisson, il ne va pas vers le buisson parce qu'il est en feu, il va vers le buisson parce qu'il est en feu et qu'il ne brûle pas. Et puis le pouvoir de Dieu, c'est ça. Le pouvoir de Dieu, ce n'est pas un pouvoir qui nous consume, qui nous abîme, qui nous épuise, qui nous détruit. Et puis si vous devez vous rappeler d'une chose ce matin, c'est que Dieu est un Dieu puissant, mais duquel on peut s'approcher sans se brûler. Et puis ce pouvoir habite en nous. C'est un pouvoir d'amour, et puis on a reçu cet amour pour pouvoir à notre tour être cet amour dans le monde. Nous aimons car Dieu nous a aimés le premier. Il y a quelques mois, en septembre, il y avait la journée internationale de prière pour les victimes de traite partout dans l'armée du salut. Et puis l'armée du salut avait donné pour thème à cette journée « Au-delà de l'obscurité ». Et vous savez, moi je fais partie d'un groupe qui visite les prostituées dans les bars, dans les salons. Et puis ce qu'il y a de commun à ces lieux, aux lieux de prostitution dans lesquels je vais, c'est que c'est toujours très 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 sombre. Il y a très peu de lumière. Et ce qui m'a parlé dans ce thème, c'est que du moment où il y a la moindre source de lumière, il n'y a plus de ténèbres. C'est absolument impossible pour les deux de cohabiter. Du moment où il y a la moindre source de lumière, c'est toujours, toujours, toujours la lumière qui gagne. Jésus dit « Je suis la lumière du monde » et la Bible dit que Christ est en nous. Donc nous, nous sommes cette lumière qui est capable de chasser l'obscurité. Alors peut-être qu'on a l'impression d'être juste une toute petite allumette. Et vous savez, moi, quand j'ai fait mon cours de soldat, la personne qui nous donnait le cours, elle nous amenait dans une cave. Donc, on était, je sais pas, une dizaine de personnes à faire ce cours, coincées comme ça dans une cave. Et franchement, on voyait absolument rien. Et il a allumé une bougie, je crois. Et juste avec cette toute petite flamme, on pouvait se voir les uns les autres. Et ça, c'est une image que je vous laisse, qui m'a marquée. Là où il y a la moindre source de lumière, c'est absolument impossible qu'il y ait des ténèbres. Alors peut-être qu'on est juste une toute petite allumette, qu'on va pouvoir faire juste une chose. Eh bien, cette chose-là, je vous garantis que ça fait toute la différence. Je voudrais vous inviter à avoir un moment de prière concernant ce thème de la traite humaine. Quand je vais dans des postes pour parler de ce sujet, j'aime bien proposer différents thèmes. Après, vous êtes toujours libre de prier selon ce que vous avez sur le cœur. J'aimerais vous proposer de prier pour les victimes. Je vous ai dit, il y en a dans plein de domaines. En Suisse, il y en a dans la prostitution. Et puis, il y en a aussi beaucoup. Il y a des femmes beaucoup dans la prostitution. Et puis, il y a des hommes sur des chantiers. Des hommes qui viennent notamment de Pologne, qui sont sur des chantiers en Suisse. Et puis, qui sont payés quelque chose comme 1-2 francs de l'heure sur des chantiers en Suisse. Et alors, dans certains autres pays, je lisais un livre récemment au Congo, il y a des femmes qui se prostituent pour l'équivalent de 20 centimes suisses. Donc, prions pour les victimes. Prions aussi pour les consommateurs, les exploiteurs. Quand on va dans les salons de prostitution, ben, ça arrive fréquemment qu'on tombe aussi sur des clients. Et puis voilà, il y a de tout, mais moi, j'ai l'impression qu'on voit que c'est des personnes à qui il manque quelque chose. Et puis peut-être qu'on peut prier aussi pour nous en tant que consommateurs. Quand on achète des vêtements, de la nourriture, bah, peut-être réfléchir de où ça vient. Hein, il y a beaucoup maintenant d'informations sur les vêtements qui sont souvent créés dans des pays où les conditions de travail, c'est aussi lié à l'esclavagisme. Et puis récemment, je travaillais aussi sur le lien entre la pornographie et puis la traite des êtres humains. Et puis, ben, c'est un milieu où il y a beaucoup de traite, où les actrices, elles n'ont souvent pas le choix d'être là. Et puis ben voilà, la pornographie, c'est vraiment un fléau de notre société, aussi dans l'Église. Les chiffres, c'est assez frappant, notamment pour les hommes. Ça montre que les hommes soient chrétiens ou pas chrétiens, les chiffres, c'est presque similaire sur les personnes qui luttent avec la pornographie. Il y a aussi un pasteur sur 7, un pasteur jeunesse sur 5 qui lutte avec cette problématique. Donc, prions aussi pour les consommateurs. Et puis, le troisième thème que je vous laisse comme sujet de prière, c'est notre société, et puis particulièrement nos églises, pour qu'on soit capable d'accueillir les survivants, les victimes dans nos églises sans jugement. Et puis aussi dans notre société, pour qu'on puisse lutter ensemble, travailler ensemble pour faire changer la compréhension des gens par rapport à la place de la femme et puis la valeur de la femme, parce que ça fera aussi changer les mentalités. C'est pas normal que, ben voilà, souvent des hommes puissent avoir le pouvoir d'acheter le corps d'une femme. Alors ça, c'est les sujets que je vous partage, mais sentez-vous vraiment libre de prier pour le sujet que vous avez à cœur, de la façon que vous avez à cœur. Et puis je terminerai par la prière. Jésus, merci parce que toi, tu n'as pas peur d'aller dans les endroits les plus sombres. Tu n'as pas peur du péché. Et Seigneur, je te prie pour que nous, en tant qu'Église, on ait on n'ait pas peur non plus et puis qu'on accepte ces personnes qui ont vécu des choses tellement difficiles, puis peut-être que ça prend plus de temps que ce qu'on pense pour changer. Et je te prie pour qu'on puisse les accueillir dans nos églises. Seigneur, je veux te remettre toutes les situations de ces victimes. Toi, tu connais les raisons qui les ont entraînées dans... là où elles sont maintenant, dans ces situations d'esclavage. Et Seigneur, je te prie pour qu'elles puissent trouver du secours. Seigneur, je te remets aussi notre société et puis particulièrement la vision de la femme dans notre société et puis à bien plus forte raison encore dans d'autres cultures. Et Seigneur, je te demande que la femme puisse être reconnue à sa vraie valeur. Je te remercie pour la dignité que tu donnes à chaque être humain, parce que tu aimes chaque être humain, que ce soit les victimes ou les exploitants. Et je te prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous puisse être dans notre cercle d'influence cette lumière. Alors, on n'est pas tous appelés à aller visiter les prostituées ou bien aller en première ligne, mais on est tous capables d'en parler autour de nous, de sensibiliser les gens à ce sujet. Et Seigneur, je pense qu'il y a un vrai travail à faire en amont. Je te demande pour que ce sujet, ce ne soit pas seulement un sujet qui soit sur nos cœurs ce matin, mais que ce soit quelque chose dont on puisse être conscient dans la suite de cette semaine, de cette année, Seigneur, qu'on puisse avoir à cœur de te remettre ces personnes. Seigneur, merci parce que, comme on l'a rappelé plusieurs fois pendant ce culte, tu es tout puissant. Et tu tiens toutes choses dans tes mains. Et Seigneur, je suis reconnaissante que l'effet de ce qu'on fait, ce ne soit pas notre responsabilité, mais c'est la tienne. Et je te demande de nous donner des cœurs qui soient obéissants pour faire ce que tu nous demandes. Et puis aussi cette capacité de lâcher prise avec cette certitude que c'est toi qui fais croître. Amen.